Il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Clotilde Dumais.
Dans ce journal, une crise d'urgence au ministère de l'Intérieur en France pour évoquer la situation à Mayotte. Après le passage du cyclone Chido, les autorités craignent un très lourd bilan. Sur place, les survivants ont désormais peur des pillages alors que l'archipel manque de tout. Dans l'actualité également, les Russes qui commencent à quitter leur base en Syrie une semaine après le départ de Bachar al-Assad, l'ancien président du pays qui est sorti de son silence. Et puis l'Assemblée nationale a adopté ce soir la loi spéciale en attendant le nouveau gouvernement français et le budget pour 2025.
RFI.
La nuit est tombée sur Mayotte et après le passage du cyclone Chido, les survivants vont encore passer des heures, sans doute même des jours, avec un réseau mobile et internet presque à l'arrêt. Dans l'archipel français, le secteur des télécoms est lourdement impacté par la tempête, a confirmé Marc Ferracci, le ministre démissionnaire chargé de l'industrie. Une situation qui crée de l'insécurité, comme en témoigne cet habitant du centre de Mayotte.
Il y a des jeunes qui s'introduisent dans les maisons, qui pillent. Ils ont commencé à piller les magasins, ils commencent à avoir des gens qui rôdent, qui font du repérage. Donc on essaie de se mobiliser les habitants pour faire en sorte d'avoir une présence pour les dissuader. Mais après, une fois que la nuit est tombée, c'est nuit noire, hein, il n'y a aucune lumière. Et puis même allumer une lampe torche, ça, c'est même risqué, dans le sens où vous êtes visible. C'est ça qui est vraiment compliqué. Là, on va essayer de trouver de quoi faire tourner le groupe, au moins aujourd'hui ou demain, le temps que la situation, on va dire, s'améliore, si elle s'améliore. Puis après, on va retourner sécuriser les habitats, étant donné qu'on est livré à nous-mêmes, donc on essaie de faire au mieux.
Et entre les bidonvilles détruits, les secours s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Les autorités craignent plusieurs centaines, voire milliers de morts. Et l'hôpital le plus important de Mamoudzou est très endommagé. Des malades chroniques sont évacués vers l'île de la Réunion en attendant à Rambeng l'installation d'un hôpital de campagne.
La situation sanitaire est très dégradée selon les affirmations ce lundi de la ministre démissionnaire de la Santé. Geneviève Dariessec fait état des dégâts très importants au sein du principal hôpital situé à Mamoudzou. Comme partout sur l'île, le centre hospitalier de Mayotte est fortement endommagé et plusieurs centres de santé sont devenus inopérants. Les CHM continuent tant bien que mal de fonctionner après avoir subi un important dégât des eaux, notamment dans les services de pédiatrie, de chirurgie, de réanimation, mais aussi au niveau des urgences et de la maternité. Le gouvernement annonce des moyens exceptionnels pour venir en aide à la population. Il est prévu d'installer dans les jours qui viennent un hôpital de campagne pour soutenir les services de santé qui ne fonctionnent plus qu'à 50% de leur capacité. Mais une question se pose, c'est comment acheminer les tonnes de matériel nécessaires à la mise en place de cet hôpital de campagne vu la quasi-destruction de toutes les routes à Mayotte.
À Rambeng, et une réunion de crise a donc débuté il y a 2 heures au ministère de l'Intérieur avec le président français Emmanuel Macron. L'armée américaine annonce avoir tué 12 membres du groupe État islamique dans des frappes aériennes en Syrie. L'objectif, selon Washington, est d'éviter qu'ils ne se reconstituent dans le centre du pays. La Syrie que Bachar al-Assad a quittée il y a 8 jours, son départ n'était pas planifié. C'est ce que l'ancien président syrien affirme en s'exprimant pour la première fois depuis sa fuite. Dans un communiqué, il estime que son pays est désormais aux mains des terroristes après l'arrivée d'une coalition rebelle emmenée par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham. Une semaine après la chute de la dictature, les soldats russes alliés de Bachar al-Assad commencent à évacuer la Syrie. Moscou a annoncé il y a quelques jours le retrait de ses forces militaires des lignes de front dans le nord du pays et dans les montagnes alaouites. Reste encore une interrogation sur l'avenir des 2 bases militaires situées sur la côte méditerranéenne. À Latakia, la base aérienne de Memim a été encerclé par les combattants HTS. Reportage sur place de l'envoyé spécial de RFI, Manon Chaplin.
Depuis 10 jours, la base aérienne russe à Mimim est cadenassée. Des combattants HTS en treillis, Kalachnikov sur l'épaule, gardent chaque point d'entrée. L'ordre a été donné de ne laisser personne ni sortir ni entrer. Zakaria Harir, combattant HTS, suspecte les Russes de se préparer à évacuer.
Aucun d'entre eux n'est sorti par ici. Ils sont toujours à l'intérieur. Certains soldats du régime, les traîtres, sont avec eux. D'autres se sont enfuis avant que nous arrivions. Ils ont déposé leurs armes et leurs dernières balles à l'entrée.
Selon des images satellites prises vendredi, deux avions cargo seraient en train d'être chargés. Au-dessus de l'aéroport, un ballon dirigeable a été déployé, des caméras de surveillance accrochées. Ahmed observe tout depuis chez lui. Sa maison est à une centaine de mètres.
L'aéroport continue d'être très actif. Il y a des avions qui décollent presque tous les jours. Je pense que c'est pour évacuer les militaires. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe, mais pour sûr, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur.
Ici, la base militaire était surnommée la voie de la mort. Des avions partaient presque tous les jours pour bombarder Idlib, poche rebelle des islamistes HTS opposés au régime. L'aéroport était aussi une base stratégique majeure pour les opérations militaires et mercenaires de la Russie en Afrique.
Nous étions épuisés par les bruits de la guerre. C'est beaucoup plus calme depuis 5 ou 6 jours et nous vivons beaucoup mieux depuis. Mais nous avons peur que cela recommence et qu'il y ait le chaos ici.
Cette semaine, le Kremlin a annoncé que la Russie était en négociation avec les nouveaux dirigeants syriens pour parler de l'avenir de ses bases militaires dans le pays. Manon Chaplin à l'attaquer, RFI.
La Russie et l'Iran ne doivent pas avoir de place dans la Syrie de demain, ça c'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie européenne, alors que l'ambassadeur de l'UE en Syrie est parti à Damas aujourd'hui pour rencontrer les rebelles. Au cours d'une réunion, les ministres européens des Affaires étrangères ont également évoqué la situation en Géorgie, où les manifestants pro-européens se mobilisent chaque jour depuis plus de 2 semaines contre le pouvoir pro-russe malgré la répression. La chef de la diplomatie européenne a indiqué que les 27 n'étaient pas encore parvenu à prendre des sanctions contre des responsables géorgiens. Mais selon Kaya Kallas, l'UE envisage de suspendre les voyages sans visa, notamment pour les diplomates géorgiens.
Aujourd'hui, nous avons convenu de la nécessité de suspendre le régime d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. La Commission présentera une proposition dès cette année. Nous avons également discuté des sanctions contre les fonctionnaires géorgiens qui sont à l'origine des violences commises à l'encontre des manifestants pacifiques. À l'avenir, nous continuerons à soutenir le peuple géorgien, notamment en réorientant les financements des autorités vers la société civile et le peuple géorgien, les médias indépendants, car l'avenir de la Géorgie, comme c'est le cas en Syrie pour les Syriens, c'est au peuple géorgien de décider de ce que l'avenir peut être.
Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne. L'Allemagne se projette désormais au 23 février prochain, date à laquelle des élections législatives anticipées doivent être organisées. Le chancelier Olaf Scholz a perdu le vote de confiance des députés aujourd'hui. Il a donc demandé au président allemand de dissoudre le Bundestag. La Banque de France abaisse sa prévision de croissance pour 2025. Elle passe désormais à 0,9% du PIB. Une nouvelle projection réalisée selon l'institution dans un contexte national et international d'incertitude accrue. Et justement, c'est un pansement pour stopper l'hémorragie en attendant d'adopter un réel budget pour 2025 pour la France. L'Assemblée nationale a validé à l'unanimité la loi spéciale qui permet d'assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics. Elle sera examinée au Sénat mercredi. En attendant la nomination d'un nouveau gouvernement, il s'agit là d'un texte technique sans portée politique, a souligné le ministre démissionnaire de l'économie, Antoine Armand. Un texte qui a tout de même, Charlotte Urien-Thomaca, a été adopté avec quelques tensions.
Deux objectifs pour ce texte, continuer à lever l'impôt et permettre à l'État de contribuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics. S'il vise seulement à éviter la discontinuité budgétaire, le texte n'est pas la reconduction du budget de l'année dernière, a expliqué le ministre de l'Économie Antoine Armand. Adopté par les 481 députés présents dans l'hémicycle, le projet de loi comprenait 3 articles techniques. Ce lundi, la présidente de l'Assemblée nationale avait déclaré irrecevables les amendements qui proposaient d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Une décision que les députés LFI voient comme un abus de pouvoir de la part de Yaël Braun-Pivet. Même son de cloche du côté du RN, et c'est désormais au tour du Sénat de se pencher sur le texte. Les élus de la Chambre haute l'examineront ce mercredi.
Et demain devant l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre répondra tout seul aux questions des députés. François Bayrou, qui a terminé ce lundi une première série de consultations avec les groupes parlementaires. Il a rencontré les dirigeants du Rassemblement national, du Parti socialiste, des macronistes et de la droite. Les discussions pour former son nouveau gouvernement vont se poursuivre demain, notamment avec les écologistes. En attendant, François Bayrou assiste ce soir au conseil municipal de la ville de Pau, dans le sud-ouest, dont il est maire depuis 10 ans. Toujours en France, le parquet national internationale antiterroriste demande entre 1 et 16 ans de prison pour les 8 accusés soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. La peine demandée la plus élevée concerne un jeune russe d'origine tchétchène poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Et puis tirage au sort compliqué pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleus affronteront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, les Pays-Bas.